du contact, c'était...
RFI.
C'est leur odeur personnelle qui...
Grand reportage.
Qui faisait que ce bisou, il avait une valeur encore plus importante.
C'est un mot que le Covid-19 a presque rendu populaire, l'anosmie, l'absence d'odorat. Selon les scientifiques, entre 5 et 10% de la population aurait un odorat défaillant, un chiffre en augmentation avec le vieillissement de la population. Une pathologie qui s'accompagne d'une perte à 80% du goût, qui peut causer des troubles dépressifs et des accidents domestiques. L'anosmie, devenue symptôme du coronavirus, fait désormais les titres des journaux, sans que l'on sache encore exactement pourquoi le Covid-19 se manifeste ainsi, ni comment sera l'odorat et le goût des patients touchés. Anosmique de naissance ou par accident, pour une durée limitée ou toute la vie, c'est un grand reportage de Gabriel Maréchaux.
Comme chaque week-end, depuis qu'il est père de famille, Jean-Michel Maillard cuisine.
Aujourd'hui, ça va être des petites cassolettes de filets de sabre avec une petite préparation, avec un peu de couleur. Il y a des pommes de terre, il y a du brocoli, il y a des oignons rouges, il y a des carottes, il y a des haricots verts.
Les couleurs sont encore là, mais les odeurs de ce plat qui mijote, Jean-Michel ne les sent plus. Et quand le repas sera servi, il n'aura presque aucun goût pour lui. Il y a 3 ans... Après un traumatisme crânien, la partie de son cerveau responsable de l'odorat a été endommagée.
Il y a une absence de plaisir qui est très frustrante au début. Je cuisinais plus du tout et puis finalement, je cuisinais surtout pour les autres. Tant que j'ai mes fils m'ont bien aidé, ma femme m'a bien aidé à me demander des plats.
La nouvelle vie sans goût et sans odeur de Jean-Michel, c'est sa femme Linda qui en a été le premier témoin.
J'ai bien vu que c'était vraiment une très grande souffrance. Je me suis très vite rendu compte que c'était quelque chose qui lui faisait énormément de mal dans toutes les petites choses du quotidien. Petit à petit, j'ai essayé de remplacer son nez pour, je sais pas moi, par exemple, lui dire si un vêtement sent mauvais ou, enfin voilà, faut le laver parce que tu peux pas le remettre. Je l'ai aidé aussi pour le choix de son parfum puisqu'il voulait continuer à mettre du parfum.
Mais avant d'apprendre à vivre sans goût et sans odeur, il a d'abord fallu lui établir ce diagnostic, une première étape déjà difficile, se rappelle Jean-Michel, après cette chute banale, il y a bientôt 4 ans.
Alors cette chute se déroule en pleine nuit, minuit et quart. Mon épouse a appelé les secours. J'ai été transporté aux urgences et puis là, on m'a fait des tas de tests qui n'ont rien à voir avec l'odorat, puisqu'on n'en a pas parlé. Et on n'en parlera pas pendant au moins une quinzaine de jours. Plutôt des tests cardiaques, analyse de sang, etc. Et puis des allers-retours aux urgences et pour finir par une IRM qui signale un hématome au cerveau. Et à ce moment-là, toujours pas de questions sur l'odorat. C'est moi qui m'en suis aperçu dans mon sous-sol, tout seul. Parce que je commençais à être perturbé un petit peu. Un jour, je me suis dit, c'est bizarre, je ne sens plus rien. Et j'ai voulu contrôler que c'était bien... que ce n'était pas une hallucination. Et j'ai brûlé un bout de caoutchouc dans mon sous-sol, vraiment en me plaçant juste au-dessus. Et effectivement, il n'y avait absolument rien du tout. Absolument rien du tout. Donc, c'est là que j'ai découvert que je pouvais perdre l'odorat, parce que je ne suis pas sûr que je savais. Et puis j'enchaînais après des rendez-vous de spécialistes qui eux-mêmes ne savaient pas trop non plus. Ça va revenir ou pas, on ne sait pas trop, etc. Les premiers mois, il y a déjà beaucoup d'espoir, parce que l'ORL ne ferme pas totalement la porte. Vous avez perdu un sens, quasi même deux, mais, on ne sait jamais, mais on a déjà vu, mais, bon. Donc, vous mettez beaucoup d'énergie personnelle, interne, à essayer de retrouver ce sens, puis ça devient épuisant. Et en plus, l'anosmie est un handicap qui s'installe mois après mois, année après année. Se priver d'odorat pendant 15 jours, un mois, c'est pas très grave. Plutôt, c'est gênant. Mais être privé d'odorat pendant 6 mois, pendant 1 an, c'est à ce moment-là que vous ressentez vraiment les effets, puisque vous n'avez plus toutes ces odeurs quotidiennes qui viennent vous aider, qui viennent vous égayer, qui viennent vous protéger, qui vous rassurent. Donc c'est... Et puis, 4 à 5 mois plus tard, c'était le 1er mars 2016, où là, mon ORL m'a dit non, vous ne retrouverez pas l'odorat. Et il y a un impact aussi sur le goût. Donc, évidemment, ces deux sens étant liés, vous avez perdu quasiment deux sens, quoi. La première année est une année très compliquée parce qu'on entre dans un univers qu'on ne connaît pas. Et malheureusement, il faut perdre l'odorat pour le découvrir. Ce qui nous manque le plus, ce sont les odeurs de la vie. Ce sont les odeurs qui nous ont construits depuis tout petit. Ce sont les odeurs du printemps, du café, de l'eau sur le sol mouillé, l'odeur du vieux linge, l'odeur qui vous rassure quand vous sortez de votre douche. Et surtout, l'odeur de vos proches. Moi, je me suis aperçu un peu tardivement que je sentais mes enfants quand je les embrassais. Voilà, je regarde des photos où j'écrasais vraiment mon nez sur leurs joues et, ou dans leur cou. Et c'était pas simplement du contact, c'est leur odeur personnelle qui faisait que ce bisou, il avait une valeur encore plus importante. Et c'est ça qui nous manque. C'est l'odeur du parfum de notre papa, c'est notre maman, c'est l'odeur, le parfum ou le corps de ma femme.
Et de la même manière que le cerveau d'une personne ayant récemment subi une amputation ressent encore des sensations dans le membre qu'elle a perdu, le cerveau de Jean-Michel, au début, a cru sentir encore.
J'ai eu des épisodes de ce qu'on appelle la fantosmie, c'est-à-dire de vous êtes trompé par votre cerveau, et d'un seul coup, vous avez l'impression que ça sent la fumée, que ça sent... ça sent le pot d'échappement, ça sent le printemps, ça sent le café. Et mes proches, à chaque fois, me disaient non, ça sent rien du tout. Moi, je mets ça sur le compte de la sorte d'hallucination olfactive, quoi. Vous avez tellement envie que ça sente que... Et je n'en ai plus du tout maintenant. C'est pour ça que j'ai mis ça vraiment sur cette volonté, cette envie que j'avais de retrouver mon état initial. Quoi.
S'il a désormais accepté son anosmie, Jean-Michel sollicite aujourd'hui tous les nés autour de lui pour essayer de ne pas s'exclure du monde des odeurs et des senteurs.
Mes enfants, je leur demande, ils sont jeunes en plus, donc et tous ceux que je peux côtoyer dans mon travail, dans mes déplacements, j'aime bien, non pas les mettre en difficulté, mais pour moi ça fait partie de la sensibilisation que je me suis juré de faire sur l'odorat. Ça en fait partie, c'est « dis-moi ce que ça sent ». Il ne me dit pas « ça sent la mandarine ». C'est-à-dire... Et c'est là que je dis « c'est un sens qui défie le langage », parce que... on ne sait pas dire. Quel mot on utilise ? Si je vous demande de me décrire une couleur, vous allez dire « voilà, vous allez avoir un objet, vous allez utiliser les couleurs, vous allez utiliser les formes, vous allez... » Voilà, si je vous demande de me décrire un son, vous allez me dire il est aigu, il est grave, il est continu. Mais décris-moi une odeur. Ce sens est muet, quoi.
Un sens muet et une médecine pas très bavarde face à cette pathologie, car les solutions sont rares et jamais entièrement satisfaisantes, raconte l'ORL Robert Schwartz.
L'intérêt de la consultation avec un ORL, c'est vraiment expliquer, trouver déjà le bon diagnostic. Et après, si le traitement n'est pas curatif, il faut les rassurer, donc d'où l'intérêt du soutien psychologique. Mais après, on est des ORL et donc des humains, et donc on n'est pas magicien.
Aujourd'hui, seulement certains types d'anosmiques peuvent être opérés sans garantie de pouvoir retrouver au mieux quelques pourcentages d'odorat.
Bonsoir à toutes et à tous. À la une de ce journal, la crise du coronavirus aux États-Unis.
Au sommaire, le pic n'est toujours pas atteint et la pandémie de coronavirus a désormais...
France où plus de 10 000 personnes...
Perte de goût, anosmie passagère, ces symptômes font désormais partie de la vie de 80% des malades européens du Covid-19. François Grouillet et sa femme l'ont rapidement découvert. Du
coronavirus. J'ai eu un peu de fièvre une nuit ou deux, et puis une journée, pas grand-chose. Et trois jours après, vers le 21, comme on ne pouvait pas sortir, une amie nous a amené du pain, un pain bio qu'elle nous trouvait très bon. Je l'ai goûté et je lui ai dit, on vend son pain, il n'est pas terrible. Et elle nous en fait des wagons sur son pain bio. J'ai mangé autre chose et là j'ai réalisé que toute la nourriture, tout ce que je mangeais avait le même goût. Lorsqu'on a commencé à perdre le goût, on n'arrivait pas à très bien dire s'il n'y avait plus du goût du tout ou pas. Parce que comme on associait la vue des aliments à leur goût. Donc, si on mangeait une banane, ben ça avait l'air d'avoir un goût de banane, mais On avait plus l'impression de se souvenir du goût que ça avait. Alors on a fait, on s'est amusé, parce qu'on a quand même beaucoup de temps libre en ce moment, on a fait un test à l'aveugle. J'ai dit à mon épouse, tu vas goûter en fermant les yeux différents aliments. Donc je lui ai mis des câpres. Je les ai écrasés pour qu'elles ne reconnaissent pas la contexture de l'aliment. Donc j'ai écrasé des câpres dans une petite assiette. J'ai pris une sauce tomate. Et le troisième, je ne sais plus, je pense que ce n'est pas de l'avocat. Je lui ai fait goûter les trois aliments à l'aveugle. Elle était incapable de me dire ce que c'était.
Est-ce que cette perte de goût et d'odorat, ça a changé quelque chose dans votre façon de vous nourrir ?
Bah, la préparation des repas, c'est devenu très succinct, parce que lorsqu'on n'a plus de goût aux aliments, bah, ça n'a plus eu vraiment beaucoup d'intérêt de manger. Donc on mange parce qu'on a faim, et au bout de 3-4 cuillères ou fourchettes, bah, on arrête. Donc on se fait des trucs tout simples, hein, on ne fait pas des grands plats.
Cela fait maintenant plus de 2 semaines. Ça vous alarme ?
J'étais un peu inquiet, oui, de perdre ce goût, parce qu'on se rend compte à quel point c'est important. Normalement, on n'y fait pas attention. Hein, le goût, le toucher, la vue, c'est des sens naturels. Et quand on en perd un, ben, on est quand même vachement désorienté. Bon, j'étais quand même rassuré rapidement, parce que j'ai rien vu sur Internet de très grave. Et en patientant, ça revient, donc. Ça revient déjà depuis hier. J'ai commencé réellement à avoir des sensations de goût. Aujourd'hui, c'est reparti, parce qu'en fait, ça fait un peu le yo-yo, ce virus. J'ai l'impression que c'est pour tous les symptômes. Mon épouse aussi a eu pas mal de symptômes, mais ça fait 3 semaines que ça dure. Un jour, ça va, le lendemain, ça va moins bien, puis ça repart. Là, c'est un peu pareil, le goût revient, repart, recommence. Mais bon, il faut patienter. Alors on patiente.
Si les médecins assurent que les sens sont retrouvés en quelques semaines dans la plupart des anosmies liées au coronavirus, aucune étude au long cours n'a pu être effectuée à cause de l'arrivée fulgurante de cette épidémie.
Salut YouTube et bienvenue dans cette vidéo qui va encore une fois être un petit peu personnelle, mais je pense que c'est important d'en parler puisque nombre d'entre vous me posent la question ou ne le savent pas alors que c'est quand même assez important. Je n'ai pas d'odorat.
Cette voix franche qui parle face caméra à ses abonnés, c'est celle de Maxime. Hein, à 30 ans, ce youtubeur et streamer parle sans gravité de son anosmie. Né avec une altération du bulbe olfactif, il n'a jamais senti d'odeur. Et en cet après-midi de printemps, assis sur le banc d'un parc de Reims où il habite, ni le gazon fraîchement coupé, ni la pluie qui vient de tomber n'ont d'odeur pour lui. Rien d'anormal pour un anosmique, même s'il lui a fallu attendre son adolescence pour se rendre compte de sa différence.
J'étais en voyage scolaire, c'était au collège. On était en Italie, à Naples. Et il se trouve qu'à Naples, la mafia gère des poubelles. Donc on est arrivé sur un port où il y avait des amoncellements pas possibles de poubelles, mais vraiment des montagnes, quoi. Il y avait des poubelles de poissons, en fait, vidés, enfin de tripes de poissons, je pense. Et tout le monde a commencé vraiment à s'exprimer là-dessus. Et il y en a qui ont commencé à vomir. Et moi, c'est là où je me suis dit, non, moi, là, tout ce que je ressens, c'est juste, oui, l'air est un peu chaud. Et du coup, bah, à ce moment-là, je me suis dit, peut-être que... Je commençais à dire, mais vous exagérez, c'est pas possible et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que, bah, non, j'avais pas du tout d'odorat. Donc j'ai été à l'hôpital pour faire un test, en fait. Et l'hôpital était surchargé, donc on a vraiment fait ça dans une petite salle, la salle d'entretien. Et du coup, le médecin était avec un interne et il m'a fait des petites fioles de tests. Donc il a commencé avec fraises, etc. Je sentais rien. Il est passé à citron, je sentais rien. Et à un moment, à côté, il y avait un énorme seau, en fait, d'entretien. Et il me fait, sentez là-dedans et dites-moi ce que vous sentez. Moi, je mets la tête dans le seau, je respire un grand coup, je regarde, je fais rien. Et en fait, c'était de l'ammoniaque. Et du coup, il fait, bon, bah, c'est sûr, vous n'avez pas d'odorat.
Comme Maxime, beaucoup d'anosmiques de naissance mettent du temps à se rendre compte qu'ils n'ont pas d'odorat, car c'est un sens que l'on ne pense souvent pas à vérifier chez les enfants, mais aussi car un jeune anosmique se fera sa propre idée de ce que tout le monde appelle une odeur, Maxime le premier.
Par exemple, quand on va dans une vieille maison, et que les gens font « Ah, ça sent le renfermé, par exemple », généralement, il fait chaud. Donc, du coup, j'ai associé ça, frais, bonne odeur, mauvaise odeur, lourd. Après, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose que je me demande aussi, c'est comment j'ai pas pu me rendre compte pendant, bon, 14 ans peut-être pas, mais pendant au moins une dizaine d'années, que j'avais pas d'odorat. Parce que c'est vraiment quelque chose, enfin, là, quotidiennement, j'y vais face. Quotidiennement, on va me dire « Ah, mais tu sens pas ça, tu sens... » Il y a des... problèmes que je vais avoir ou des choses comme ça qui sont dures à te communiquer en fait. Par exemple, quand changer de t-shirt, c'est tout bête, mais les gens en fait changent de t-shirt instinctivement parce que je le remarque, hein, ma copine fait ça, tout le monde fait ça. Vous sentez vos vêtements en fait, et je ne peux pas sentir mes vêtements, et surtout je n'ai aucune connaissance de réellement ce qu'est une odeur. Et comment on pue, par exemple, quel degré, est-ce que... Donc des fois, bah, je peux mettre un t-shirt une journée et ça va, des fois c'est deux jours, et puis des fois, bah, au bout d'une demi-journée, ça sera mort parce que bah, je ne sais pas pourquoi, ma sueur va sentir mauvais, ou je ne sais pas comment ça marche en fait du tout. Il y a aussi le fait que par rapport à l'alimentation, j'ai tendance à manger trop vite. Parce que tout simplement, je n'ai pas les arômes, et du coup, bah, ça passe très vite en fait. L'aspect, c'est un peu comme quand on prend un chewing-gum, bah, le goût du chewing-gum, il passe vite, bah, là c'est encore plus rapide pour moi, parce qu'il n'y a pas du tout d'arômes. Donc du coup, j'ai tendance à manger trop vite, ce qui n'est pas terrible quand on ne veut pas prendre du poids, parce que ce n'est pas une bonne hygiène de vie. Ça, c'est vraiment, je dirais, un des problèmes. Après, il y a aussi le fait que, bah, par exemple, jusqu'à maintenant, je n'ai jamais eu de gazinière chez moi, parce que c'est une crainte légère, mais c'est vrai que c'est quelque chose où, si je pouvais faire le choix, ayant habité tout seul pendant pas mal de temps, bah, je préfère pas mourir de ça. Pareil, j'ai pas voulu d'animaux de compagnie, parce que je peux pas gérer si ça sent mauvais ou pas. Alors maintenant, j'ai ma petite Amy, donc on a des chats, mais c'est elle qui dit quand la litière pue, ou des choses comme ça, ou quand il y a un problème par rapport à l'odeur. Mais ouais, par exemple, là récemment, on regardait une série et d'un coup, elle fait « Ah, il y a eu un truc avec Lady et tout. » Elle est sortie et effectivement, ils avaient fait n'importe quoi, enfin bref. Et moi, je pouvais pas le savoir et je l'aurais même pas vu en fait, parce que c'était vraiment un coin de la pièce, etc. Elle a pu le traquer d'une autre pièce et revenir à la source de l'odeur. Alors que, bah oui, moi, pour moi, c'est genre un peu un truc de super-héros, ça fait un peu super-pouvoir, quoi. Voilà.
Si l'odorat est un super-pouvoir pour Maxime, les publicités pour des parfums appartiennent, elles, au registre de la science-fiction.
Ça a l'air d'être transcendant, on voit des gens qui... Enfin, il y a toujours un côté très sensuel, d'ailleurs, dedans, et ouais, c'est incompréhensible, en fait, parce que c'est vraiment un monde... j'ai l'impression qu'ils sont en train de vivre un truc oufissime, qui est inexplicable, et moi, c'est vraiment de la presse de la science-fiction, en fait, c'est...
Vous y pensez à ce que ça est, une odeur, et comment est-ce que vous imaginez ça?
Alors, il y en a certains qui parlent de ça comme une sorte de nuage, plus ou moins, mais du coup, je ne comprends pas la vitesse de propagation. Et en fait, c'est un peu comme quand on essaye de dire « Hey, imagine une nouvelle couleur » ou quelque chose comme ça, c'est pas possible. Et bien, pour moi, c'est ça, en fait. Je ne pense pas qu'on puisse vraiment m'expliquer l'odorat, parce que je continuerai à ne pas y croire, d'une certaine manière. Je ne sais pas comment dire ça. C'est... Genre, si demain, on m'annonce qu'en fait, c'est une grosse blague et que l'odorat n'existe pas, je pense que c'est possible que j'y croie à ce moment-là. Parce que c'est juste trop gros, en fait. C'est vraiment un monde entier qui est là, invisible, d'ailleurs. Que certaines personnes vont dire « Oui, ça sent bon, d'autres, moi, ça sent mauvais. » Donc, je ne sais pas. On essaie de me qualifier comme si c'était une sorte de goût dans l'air. Enfin, goûter l'air, plus ou moins. Mais... c'est ouais, d'accord. J'y crois. Enfin, c'est pas que j'y crois pas. C'est juste, je ne peux pas le comprendre et c'est trop gros, je pense, à comprendre. Il y a souvent cette question. Voilà, si tu devais perdre un sens, ça serait lequel? Je joue pas trop à ce jeu-là parce que j'ai déjà perdu. Enfin, j'en ai déjà un de moins. Mais ouais, les gens reviennent souvent sur ah, je perdrais peut-être l'odorat. Je pense qu'ils se rendent pas compte à quel point dans leur vie de tous les jours c'est très proche des émotions en fait et de leurs souvenirs. Et en fait, souvent, les gens ont tendance à vraiment très mal le vivre, de perdre l'odorat. Donc, je suis content de ne pas l'avoir perdu, mais de jamais l'avoir. Comme ça, ce n'est pas un souci.
Invisible, mais aussi méconnu, négligé, l'odorat est pourtant un sens qui se développe avant même la vue et l'ouïe lorsqu'un enfant naît. Et renifler l'univers qui nous entoure est pour Maxime un super pouvoir digne de la science-fiction. Mais Jean-Michel Maillard l'assure, il faut l'avoir perdu pour enfin comprendre son importance.
Anosmique de naissance ou par accident pour une durée limitée ou toute la vie, un grand reportage de Gabriel Maréchaux, réalisation Pierre Chaffangeon.